Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 16 décembre, à Noël, masqué en attendant d'être vacciné. C'est ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé en Europe. Elle s'inquiète même d'une nouvelle vague au début de l'année prochaine. La France dévoilera son plan de vaccination cet après-midi. Tout pourrait démarrer avant la fin de l'année. Qui sera maire de Marseille 6 mois après l'élection municipale? La question se pose de nouveau après la démission de Michel Rubirola. Et ce n'est pas forcément gagné pour son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan. La stylométrie peut-elle changer le cours de l'enquête sur l'affaire Grégory? Nous verrons en quoi consiste cette technique pour tenter d'identifier le ou les corbeaux. Connaissez-vous le Monopoly Mauvais Joueur? C'est pourtant l'un des jeux de société qu'on va retrouver sous le sapin. Le confinement a rendu les créateurs innovants. Nous ferons le point sur les tendances 2020. La météo, elle, n'est pas joueuse. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
La grisaille s'incruste.
Oui, c'est vrai qu'elle aura du mal à se dissiper finalement au nord de la Seine et vers le Val-de-Saône. Tout ça reste très incertain. C'est quand même plus dégagé sur les régions centrales et le sud-ouest avec un ciel variable. Près de la Méditerranée, ça reste chargé comme ce matin, avec un peu de pluie sur le relief des Cévennes et la Côte d'Azur. Et puis sur le nord-ouest, là c'est plus nuageux et humide avec la perturbation de ce matin qui se décale légèrement entre les Pays de la Loire et la Normandie, mais les pluies sont faibles. Tout ça sous une grande douceur, encore aujourd'hui, de 10 à 13 degrés au nord jusqu'à 17 au sud. Et je rappelle que les Landes sont toujours en vigilance orange cru.
La question du jour sur RTL.fr, seriez-vous prêt à être la première personne vaccinée en France? Extrêmement intéressant le résultat, 75% de non, 20% de oui. Bonjour Pascal.
C'est une consultation, c'est pas un sondage bien sûr, mais c'est une indication dira-t-on.
Oui.
Le Premier ministre Jean Castex présente aujourd'hui à l'Assemblée nationale la stratégie vaccinale contre la Covid-19. Ce sera évidemment notre thème quasiment principal de notre émission. Faut-il une primaire à droite pour désigner le candidat à la présidentielle? C'est un autre sujet, on a beaucoup de sujets. Faut-il supprimer les aides sociales aux familles de délinquants? L'affaire Grégory, connaîtra-t-on un jour la vérité? Mais également du football avec Karim Benzema. Est-il le meilleur avant-centre français de l'histoire? C'est Zinedine Zidane qui le dit. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de tristesse, on rendra hommage à l'actrice Caroline Cellier qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 75 ans.
RTL Midi. Et pour commencer, on ne connaît toujours pas quel est l'heureux gagnant du pactole record de l'euro million, 200 millions d'euros, mais d'après le quotidien Sud-Ouest, il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années qui vit sur le bassin d'Arcachon, du côté de Biganos. C'est un ami qui aurait vendu la mèche et vous êtes parti à sa recherche, Denis Grandjou.
Oui, je me trouve devant un des trois points de la Française des Jeux, le Bar Tabac Presse. L'Europe, il est juste en face de la gare de Biganos et depuis ce matin, Sabrina, qui tient ce tabac presse, voit passer beaucoup de monde.
C'est ça, ça commence terriblement à frémir, tout le monde est susceptible d'avoir gagné, de connaître la personne. Ben, pour l'instant, on ne sait rien, donc on ne va pas s'avancer sur... Voilà, c'est une très très belle somme, tant mieux pour l'euro gagnant.
Effectivement, la rumeur s'est propagée dans les rues de Biganos.
On va savoir, c'est bien tôt ou tard à un moment donné, sauf si la personne veut vraiment rester discrète, là on ne saura pas qui c'est.
Je fais un reportage, je suis à la recherche du gagnant à 200 millions.
Eh bien, c'est pas moi.
Moi, je dis que c'est pas vrai.
Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de magouilles, moi, j'y crois pas.
Alors, c'est à Biganos, ça s'est passé?
C'est une rumeur.
C'est une rumeur. Mais il y en a des rumeurs, vous savez.
Si le gagnant de ce tirage historique de 200 millions est bien de Biganos, il battra forcément le record actuel de gains dans la ville, 500 000 euros, tout juste.
200 millions.
Oui, oh là là, ça doit faire un choc.
Oui, ça doit faire un choc. Denis Grandjou sur la trace de la rumeur, donc à Biganos. Il faudra tenir encore 3 à 6 mois face à l'épidémie, si on en croit le Conseil scientifique. En attendant, l'Europe met le cap sur le vaccin. L'Agence européenne du médicament se penchera sur le dossier Pfizer-BioNTech le 21 décembre et les 27 États de l'Union pourront commencer en même temps leur campagne. La France dévoilera tout à l'heure son plan de vaccination et les premières injections, si l'on en croit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, sont attendues avant la fin de l'année. Comment ça va se passer, Odile Pouget?
Alors, première étape, donc l'avis scientifique de l'Agence européenne du médicament sur Pfizer, le premier vaccin en tête, attendu lundi prochain. Ensuite, s'il y a feu vert, évidemment, autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne dans un délai de 3 jours maximum, au plus tard donc le 24 décembre. La France devrait obtenir 15% des doses disponibles. A priori, on serait sur 30 millions de doses. C'est en tout cas le nombre de vaccins qu'on a commandé au laboratoire américain. Il reste encore une étape prévu prévu par la loi, l'avis de la Haute Autorité de Santé qui doit se prononcer sur le rapport bénéfice-risque, les effets indésirables, les populations ciblées. Cela fait plusieurs semaines que la HAS travaille sur ces données scientifiques et son avis va être rendu extrêmement rapidement. C'est ensuite une question de logistique énorme. C'est le laboratoire américain qui va se charger de l'acheminement des doses par camions spéciaux depuis son site de production en Belgique. Plus d'une centaine d'établissements hospitaliers ont été identifiés sur le territoire, au moins un par département. Ils sont en train d'être équipés de super congélateurs pour conserver le vaccin à environ moins 80 degrés. À charge ensuite pour eux de fournir en vaccin les EHPAD situés dans leur zone. Dès réception, ces établissements qui recevront les doses décongelées auront 5 jours pour vacciner. Il faudra recueillir le consentement de la personne ou de sa famille. Il faudra une pré-consultation. Vous le voyez, tout cela peut prendre encore un peu de temps.
Un peu de temps. Merci Odile. Sachez que Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, sera l'invité de Thomas Soto à 18h15 dans RTL Soir. Il y a urgence puisque l'Europe est frappée de plein fouet par la deuxième vague d'épidémie. L'Allemagne a fait pression sur l'Europe pour accélérer le processus de vaccination et elle vient de battre son nombre record de morts au premier jour du confinement, Blandine Milson.
Presque 28 000 nouvelles contaminations en 24 heures et 952 morts recensées, c'est du jamais vu depuis le début de l'épidémie. Et cela explique aussi pourquoi la vie publique s'arrête aujourd'hui en Allemagne et jusqu'au 10 janvier. Tous les magasins ferment sauf les commerces essentiels, alimentation, pharmacie, droguerie. La plupart des écoles ont fermé elles aussi, 3 jours avant le début officiel des vacances. On demande aux Allemands de se confiner volontairement et ils ne pourront pas passer Noël avec plus de 4 personnes de leur famille proche, en plus de leur foyer. Angela Merkel s'est dit très inquiète hier devant des parlementaires, inquiète de l'évolution de l'épidémie alors que le taux d'occupation des lits de réanimation a dépassé les 80%. Voilà pourquoi aussi le gouvernement allemand, avec d'autres en Europe, a mis la pression sur l'Agence européenne du médicament pour qu'elle avance d'une semaine sa procédure d'autorisation. Tous les centres de vaccination sont prêts à démarrer ici en Allemagne dès que la validation définitive du vaccin du groupe Pfizer interviendra, soit quelques jours avant la fin de cette année 2020.
Blandine Milson à Berlin pour RTL. En attendant, eh bien, il faut respecter les gestes barrières. Sinon, ça rend fou de rage l'acteur Tom Cruise. Il tourne en ce moment Mission Impossible 7 en Angleterre et il a carrément pété un câble après avoir vu travailler 2 personnes côte à côte devant un ordinateur sans respect de la distanciation sociale.
On crée des milliers d'emplois avant d'aboutir. Je ne veux plus revoir ça. Plus jamais. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous dégagez. On ne va pas arrêter de tourner ce putain de film, compris ? J'espère que vous comprenez votre responsabilité.
Document audio recueilli par Le Sun, l'engueulade dure 3 minutes. Il faut savoir que Tom Cruise porte régulièrement 2 masques, l'un chirurgical et un autre en tissu par-dessus. Il sera donc sans doute rassuré par les dernières préconisations de l'Organisation mondiale de la santé en Europe. Elle recommande le port du masque pour les réunions familiales de fin d'année. On fait une pause et dans un instant, le verdict attendu au procès en appel de la mère de la petite Fiona et de son compagnon.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Ça fait presque 3 heures maintenant que les jurés des assises du Rhône se sont retirés pour délibérer. 30 ans de prison avaient été requis hier en appel contre la mère de la petite Fiona, Cécile Bourgeon, et son ex-compagnon. L'enfant est tombé sous les coups du couple, mais on n'a toujours pas retrouvé son corps. Et une fois de plus, les accusés se sont renvoyés la responsabilité de sa mort. Et leurs derniers mots, Frédéric Perruche, n'auront pas aidé à clarifier les choses.
Exactement, d'une voix neutre, sans émotion aucune, comme tout au long du procès. Cécile Bourgeon a simplement déclaré « Penser à Fiona tous les jours, rien d'autre. Je l'aimais de tout mon cœur, je n'ai jamais porté de coup sur elle », a rajouté Berkan Makhlouf. Depuis 3 heures maintenant, les jurés répondent aux 14 questions qui leur sont posées sur les responsabilités de ce couple de toxicomanes, manipulateurs, menteurs, violents. Cette association de la ruse et de la rage, selon les mots impitoyables du procureur, qui a requis 30 ans de réclusion. Mais il n'y a aucune preuve formelle, pas de corps, simplement l'hypothèse très probable d'un décès lié à des maltraitances régulières avec les coups de trop sur une enfant déjà bien abîmée ce samedi 11 mai 2013 au soir dans le petit appartement de Clermont. Tous les deux s'accusent mutuellement d'avoir frappé la fillette, mais leurs versions sont approximatives, hésitantes, peu étayées. Mais le lourd passé de violence contre ses ex-petites amies notamment ne plaide pas pour Berkan Makhlouf, même si, à la différence de Cécile Bourgeon, il a toujours montré une émotion visiblement sincère à chaque fois qu'il prononçait le nom de la petite Fiona.
Frédéric Perruche en direct du Palais de Justice de Lyon pour RTL. RTL. 36 ans après la mort du petit Grégory retrouvé ligoté dans la Vologne, la justice poursuit ses investigations. D'après nos confrères du Parisien, le nouveau magistrat en charge du dossier a procédé à de nouvelles auditions de témoins il y a quelques jours et il attend beaucoup des résultats d'une expertise sur les lettres du ou des corbeaux avec une technique qui s'appelle la stylométrie. De quoi s'agit-il, Thomas Proutot ?
Alors, il s'agit d'une science ancienne qui se targue de pouvoir identifier les auteurs de textes dont l'origine est incertaine ou disputée. La stylométrie analyse et dénombre tous les éléments, toutes les briques qui font le style d'un texte. Champ lexical, syntaxe, usage des ponctuations, répétition, espace entre les lettres. Des statistiques qui aboutissent à une signature unique, selon les promoteurs de la stylométrie, et qui peuvent aujourd'hui bénéficier du calcul informatique afin de comparer les données. On comprend pourquoi la précédente juge en charge du dossier Grégory s'est laissée séduire en 2017 par les services d'une société suisse, Orphanalytics. La magistrate leur a confié les quatre principales lettres du corbeau reçues par la famille Villemain avant et juste après la mort du petit Grégory en 1984, ainsi que toutes sortes d'écrits de l'entourage familial. Objectif, identifier enfin le ou les corbeaux, alors que les expertises graphiques depuis 36 ans ont désigné tour à tour le cousin Bernard Laroche, la grand-mère Monique Villemain ou encore la grande-tante Jacqueline Jacob. Plus de 2 ans après, les résultats ne sont toujours pas connus, mais il faut souligner que les parties civiles se montrent très circonspects sur cette technique qui n'apportera pas de preuves, mais encore une fois, de simples présomptions.
Et nous sommes en ligne justement avec maître Gérard Velzer, l'avocat de Marie-Ange Laroche. Bonjour maître.
Bonjour.
La stylométrie, vous y croyez ?
Écoutez, moi ce que je vois, c'est que depuis 36 ans, on montre du doigt, avec la lettre du 16 octobre 84, 4 personnes différentes. Contrairement à ce qui a été indiqué, d'ailleurs, Bernard Laroche a été mis hors de cause par 7 experts en écriture. Mm-hmm. Et ces 7 experts sont venus en 93 aux Assises à Dijon confirmer la mise hors de cause de Bernard Laroche. J'y crois pas dans cette nouvelle expertise. Vous savez, dans ce dossier, première victime, Grégory Villemain. Deuxième victime, Bernard Laroche, assassiné le 29 mars 85 après avoir été libéré. Troisième victime, le juge Lambert, qui, après le prétendu rebondissement de 2017, s'est donné la mort. Combien faudra-t-il de victimes pour qu'on soit prudent dans ce drame ?
De nouvelles auditions ont eu lieu il y a quelques jours. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ?
Non, je ne sais pas de qui il s'agit. Vous savez, on est sorti du dossier par les armes le 29 mars 85. Ce que je sais, c'est que qu'on recherche la vérité, c'est très bien. Si on a quelque chose de solide, comme une trace ADN sur l'anorak de l'enfant, par exemple, de Grégory Villemain, très bien. Mais si on n'a pas quelque chose de non contestable, il faut absolument éviter de jeter en pâture le nom d'une personne.
Le magistrat qui a repris cette affaire hors norme ne semble rien vouloir lâcher. Est-ce qu'effectivement, vous pensez qu'on peut encore trouver des preuves 36 ans après ?
Écoutez, 36 ans après, dans une affaire criminelle, pourquoi pas trouver une preuve ADN ? Mais je vois qu'on parle de témoins ou d'entendre des témoins. Écoutez, un témoin d'un crime, déjà le lendemain des faits criminels, c'est déjà tard. Donc, faisons confiance à la science. Ce magistrat a excellente réputation, donc il n'y a aucune raison qu'il ne travaille pas sérieusement. Mais attention d'éviter de nouveaux dérapages.
Vous avez 66 ans, maître Velzer. Vous êtes sur cette affaire depuis le début. Est-ce que vous pensez qu'on saura un jour ?
Vous savez, je vais vous répondre très franchement. Je crains que non. Alors quand je dis ça, on peut dire « Ah, mais c'est parce qu'il était avocat de Bernard Laroche qu'il a peur ». Non, ce que je constate, c'est que depuis 36 ans, on nous annonce quasiment à intervalles réguliers une semaine décisive. Je me souviens du 5 novembre 84, à l'arrestation de Bernard Laroche, on nous a dit « Le monstre est arrêté ». On s'est aperçu que tous les experts en écriture l'ont mis hors de cause, que les lettres du corbeau, c'était pas lui, etc. C'est-à-dire qu'il est mort assassiné. Donc attention. Depuis 36 ans, on nous annonce des semaines décisives et des rebondissements pour arriver à un drame qui n'a pas cessé de faire des victimes.
Merci beaucoup, maître Velzer, d'avoir été l'invité de ce journal. Merci beaucoup. On fait une pause et dans un instant, des chaises musicales à la mairie de Marseille.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Christelle Robière.
L'abandon. Ce titre claque à la une de la Provence ce matin après la démission de Michèle Rubirola, 6 mois à peine après avoir été élue maire de Marseille. Elle souhaite inverser les rôles avec son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan, que beaucoup à Marseille traitent d'apparatchik. L'élection sera décidée par le conseil municipal lundi. Mais ce tour de passe-passe n'est vraiment pas gagné pour le printemps marseillais, Hugo Hamelin.
Non, une nouvelle fois, on va refaire le match à Marseille avec les mêmes règles que le 4 juillet dernier. Deux tours de vote pour atteindre la majorité absolue et un troisième, si besoin, qui déboucherait sur une majorité relative. Je vous avoue que les Marseillais espèrent ne pas en arriver là. C'est quand même le quatrième tour de ces élections municipales. Alors, trois scénarios sont possibles. La gauche qui fait bloc derrière Benoît Payan, qui a un profil un peu plus professionnel de la politique que Michel Rubirola. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce que certains collectifs citoyens mettent déjà la pression et demandent que tous les militants de gauche du Marseillais soit consulté sur cette candidature. Il y a aussi Samia Ghali, l'ancienne sénatrice des quartiers nord, qui va elle aussi négocier au sein de cette coalition de gauche dont elle fait partie, et bien pour obtenir plus de pouvoir avec le sens des affaires qu'on lui connaît. Ça nous amène au deuxième scénario, une gauche qui se craquelle et des républicains qui parviennent à récupérer quelques conseillers à gauche, quelques conseillers à l'extrême droite pour construire une coalition qui serait, c'est vrai, un peu contre nature, c'est peu probable. Et puis le dernier scénario, alors celui-là il est exceptionnel, c'est tout le monde qui démissionne, ça obligerait le préfet à assurer l'intérim et de nouvelles élections qui seraient organisées au mois de juin à cause du coronavirus, pas avant. Donc vous voyez, à Marseille, le rapport de force n'est pas clairement établi. Des mécontentements, des trahisons sont toujours possibles. Alors tout le monde négocie en ce moment et ça va durer jusqu'au vote prévu lundi.
On se croirait dans une série télé entre Marseille et le Baron Noir. Merci Hugo Hamelin. La Grèce achète des Rafales à la France. Six premiers avions de combat d'occasion doivent arriver l'été prochain. Les tensions accrues avec la Turquie en Méditerranée orientale ont conduit la Grèce à doubler ses dépenses en matière de défense dans son budget 2021. Ils ont été les stars du confinement et seront sans doute aussi en bonne place au pied du sapin. Les ventes de jeux de société ont pris 10% en valeur en décembre, alors que le marché du jouet est plutôt, lui, en recul. Alors, quelles sont les tendances du moment? Franck Mattet, porte-parole de Jouet Club, nous a rejoint en studio avec quelques boîtes. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment?
Bien, en fait, c'est les jeux de société pour famille. Donc, on a par exemple le quiz des quatre maisons.
Alors, Harry Potter. Vous nous avez amené à Harry Potter.
Voilà.
Oui.
Donc, en fait, c'est un quiz. Chacun choisit sa maison. Il y a des questions qui sont posées sur l'univers d'Harry Potter. Et si on a bon, on marque le point. Si on n'a pas bon, on a perdu. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a, pour les fans de manga, une nouveauté, One Piece. Donc là, c'est un jeu qui reprend toute la saga One Piece, qui est dessinée par le grand dessinateur du manga en personne. Et là, ce produit qui est arrivé fin novembre, ça arrache déjà comme des petits pains.
Ça marche très très bien.
Oui, ça
les
marche
mangas,
très bien.
Parce que ça, c'est une nouvelle tendance, on les mangas dans les jeux de société.
Voilà, on est dans des niches. En fait, l'univers des jeux de société, c'est à la fois des grands classiques qui sont éternels, qui fonctionnent très bien, et en même temps, c'est tout un ensemble de produits comme ça qui vont être sur des types d'activités ou des univers, des imaginaires, et qui vont fédérer un très très grand public au final. Parce qu'on s'adresse à la fois aux adultes, aux familles, et aux enfants, et de tous les âges.
Vous parliez des grands classiques. Il existe un Monopoly mauvais joueur, désormais?
Oui, c'est mauvais perdant. C'est parce qu'en fait, on triche souvent en jeu de société quand on est en famille, que l'enfant il est plus jeune, il veut essayer de se mettre au niveau des plus grands. Donc ils en ont fait une version dérivée qui permet finalement d'aller dans ce sens-là. Mais malgré tout, faut pas se faire attraper parce que sinon vous perdez quand même.
Est-ce qu'il y a des jeux spécial Covid cette année?
Oui, alors c'est une tendance. Alors c'est une tendance c'est un concours de circonstances en fait. Ça n'a pas été créé pour l'occasion. Mais par exemple, effectivement, ce jeu Dr Good, avec Michel Simès, ça permet d'en apprendre plus sur le corps et sur
Michel
le cerveau.
Michel Simès qu'on retrouve tous les matins, évidemment,
voilà,
avec Yves Calvi. Alors qu'est-ce que c'est Dr Good?
Donc,
c'est
ça,
lui
c'est
Dr Good?
Oui, en fait, c'est ça, c'est une niche. Et il faut avancer dans la connaissance du cerveau. Et sur des questions, en fait, on prend soin de soi, on mange, on fait de l'activité, comment ça marche, ou alors des questions bizarres. Donc c'est pour mieux connaître en fait le cerveau, se déplacer, et si on est bon dans toutes les parties, on gagne la partie.
Oui, et en même temps on apprend quelque chose, j'imagine.
C'est ça.
C'est pour les 8 ans et plus.
Oui,
ça.
C'est ça. Donc là on est sur un jeu famille. Et puis après, il y a des jeux aussi, on est dans un univers un peu loufoque, un peu rigolo, avec de l'émotion, de l'intensité. Donc par exemple, vous avez Pictorush ici, il faut dessiner 20 dessins en 20 secondes. Donc ça fait une seconde par dessin sur des mots.
20 et dessins en 20 secondes.
Voilà. Et ensuite, il faut les expliquer, il faut les dire. Si, c'est possible. C'est ça le but du jeu.
Il faut être professionnel.
Parce qu'on va dessiner, on va gribouiller, en fait. On va pas vraiment dessiner.
Ça.
Et donc, il faut ensuite dire qu'est-ce que ce gribouillis. Et si vous le faites, vous marquez des points. Sinon, ça peut être vos adversaires qui vont marquer des points.
Ça, c'est les tendances jeux apéro. Ça aussi, ça s'est développé cette année. Ça.
Oui, alors ça fait quelques années que ça existe. Mais avec le confinement, en fait, toutes ces catégories sont montées en puissance. On fait une grosse croissance. Le jeu de société aujourd'hui, c'est la première catégorie de vente sur le marché.
Et, par exemple, représente combien?
Ça représente presque 20%. Donc, ce qui veut dire que, par exemple,
de l'ensemble du marché du jouet.
Oui,
donc,
en ce moment, dans la haute du Père Noël, un jouet sur cinq est un jeu de société.
Mmh. C'est incroyable. Et alors, du côté des classiques, on vend encore le bon vieux Cluedo.
Oui, les puissances 4, le Scrabble, le Docteur Maboule. Ça, c'est des grands classiques qui se transmettent de génération
en
génération.
Il ne faut pas perdre les fondamentaux, quand même.
Non, et c'est toute la richesse, en fait, de cette catégorie qui est extrêmement bien fournie en termes de jeux et de diversité d'activités. Il y a des choses très grand public, des choses qui sont plus pointues, des choses qui sont dans la stratégie, la réflexion, la création, la connaissance, et puis le côté ludique est toujours là. Donc ça permet de rassembler en fait des familles autour d'une table. Mmh. Le soir, on cherche une activité plutôt que d'être devant un écran. Bien, on va faire un jeu, et puis entre amis aussi, on va se réunir, on va passer un bon moment ensemble.
Quel est le jeu de société que vous vendez le plus?
Alors le jeu, c'est le quiz des quatre maisons, Harry Potter, voilà, qui est dans le top 5 des ventes depuis le mois de novembre.
Merci beaucoup, merci Franck Maté d'être venu avec tous ces jouets qu'on retrouvera au pied du sapin. Et on va retrouver Pascal Pro, avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Pascal,
vous avez commencé votre journal. Oui, parce qu'il y avait deux choses. Je me disais, mais qui achète encore un Cluedo, sachant qu'il y a des Cluedo dans toutes les familles, donc des vieux Cluedo, donc je ne sais pas.
Oui, mais il y a des familles qui se créent chaque année.
Sans doute. Non, mais je me faisais la réflexion que vous avez commencé votre journal par La Française des Jeux et les 200 millions, et oui, vous avez terminé par des jeux. Et ça fait tellement bien de parler d'autre chose que du Covid-19 ou de la Covid-19, parce que c'est vrai qu'on n'en peut plus, en fait. C'est ça, la réalité.
C'est pas faux.
Mais en même temps, les auditeurs, on va sans doute beaucoup parler de cela pendant une heure et demie, parce que le Premier ministre Jean Castex présente aujourd'hui à l'Assemblée nationale sa stratégie vaccinale, et qu'on a cette question: seriez-vous prêt à être la première personne vaccinée en France? Mmh. Donc forcément, c'est aussi ce qui intéresse nos auditeurs.
J'ajouterais une question, parce que quand l'OMS aussi recommande aux familles de porter le masque le soir de Noël, pendant les fêtes, je me demande quand même comment les Français vont le prendre.
Mais ils vont pas le porter.
Ah ben, on leur pose la question.
Ben oui, mais ce que dit l'OMS, je pense que non, je s'en fiche. C'est ça la réalité autour de la dinde, je pense. Quoi.
Va-t-il falloir mettre un masque à la dinde?
Mamie, ton masque! Non mais voilà, c'est plus possible. Quoi. Déjà, alors elle sera en cuisine, mamie, on coupera la bûche en deux, et en plus elle aura un masque. Donc ça fait beaucoup pour mamie. Je ne sais pas si elle va venir. Faut-il une primaire à droite pour désigner le candidat à la présidentielle? Donc ça sera un des sujets. Les aides sociales aux familles de délinquants, faut-il les supprimer? L'affaire Grégory, j'ai entendu Maître Welzer, qui vous répond d'ailleurs, on ne saura jamais la vérité. L'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, est-il le meilleur avant-centre de l'histoire de France? C'est Zinedine Zidane qui le dit. Il y a des jeux football dans le temps, il y avait du Subutéo quand j'étais enfant.
Absolument, absolument.
Ça existe toujours?
Ça existe, et puis ça disparaît, puis ça revient.
Ah bon? Oui. Subutéo, vous n'avez pas joué à ça?
Non,
c'est un jeu de football de société.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est
un jeu. Bon. Et puis, ça sera bien de rendre hommage à l'actrice Caroline Cellier qui nous a quittés, parce que c'est très étonnant. Elle est très présente, même si ses films n'ont pas forcément marqué l'histoire du cinéma.
On se souvient de l'année des Méduses.
Mais par exemple, et c'est pourtant pas un immense film, l'année des Méduses, mais il a marqué une époque avec Bernard Giraudot, avec également Pierre Vanek et Valérie Caprisky, qui était absolument sublime.
Qui a beaucoup marqué les garçons.
Oui, bien sûr. Et c'était un très joli... très joli texte de Christopher Franck. Je vois que Monsieur Maté est de ma génération.
Vous laisse. Hein. On fait un peu de météo, puis je vous laisse tous les deux. Hein.
Mais s'il vous plaît.
Peggy Broche, oui. En deux mots, la météo, douce et grise.
Exactement. C'est vrai que la grisaille aura beaucoup de mal à se dissiper cet après-midi, Christelle, surtout au nord de la Seine et vers le Val-de-Saône. En revanche, sur les régions centrales, le sud-ouest, là, c'est plus lumineux. Entre nuages et éclaircies, c'est pas du grand bleu non plus. Gris, vous l'avez dit également, près de la Méditerranée, avec encore quelques rares averses, notamment sur le relief des Cévennes et la Côte d'Azur. Le ciel est plus variable en Corse, plus de lumière. Et puis souvent gris encore sur le nord-ouest avec cette perturbation. Arrivée ce matin par la Bretagne, elle se décale et on va la retrouver cet après-midi entre les Pays de la Loire et la Normandie. C'est surtout nuageux, les averses sont plutôt rares et localisées. Du coup, la pointe du Finistère va retrouver des éclaircies. Les températures, elles restent douces pour la saison. 10 cet après-midi à Cherbourg et Lille, 11 à Paris et Strasbourg, 13 degrés à Besançon, 15 à Lyon, Bordeaux, Montauban et Perpignan, 16 à Toulon, 17 à Marseille
Et je rappelle que les Landes sont toujours en vigilance orange pour crue.
Et demain, toujours aussi maussade ?
Oui, c'est vrai que le temps sera bien couvert demain, notamment du sud-ouest au nord-est, toute la journée avec quelques averses, des averses plus continues dans le sud, soutenues même sur le Languedoc. Ce sera tout de même plus lumineux sur les Alpes et la Corse. Et puis à l'arrière de cette perturbation, sur un large quart nord-ouest, là, on aura pas mal de grisailles le matin, encore quelques averses éparses. Ça ira mieux l'après-midi, malgré les nombreux nuages. Et puis tout ça, sous des températures qui seront en baisse, mais encore très douces.
C'est quand même bien chargé. Merci, oui. Peggy. À suivre le rappel des titres sur RTL, il va être 13h.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute.